Shalom peuple de Dieu, shalom encore. Comme le pasteur Roger Muyangi le disait tout à l'heure, je suis un enfant de la maison, j'ai grandi ici, j'étais là, je faisais la voix basse et j'étais aussi chez les fiancés. Depuis 1998, nous avons évolué jusqu'en 2014 où votre église, notre église, a jugé bon que ce soit moi qui sera le pasteur de la Borne Mitendi, Écriture de Dieu. Et depuis lors, le Seigneur nous fait beaucoup de bien. Il nous fait beaucoup de bien. Merci pour vos prières, merci pour vos conseils. Le Seigneur nous a bénis depuis 3 ans. Nous avons déjà le 2e culte. Nous avançons très bien. Nous avons déjà une extension où le pasteur est déjà reconnu par les assemblées de Dieu. Nous ouvrons 3 cellules, nous sommes en train d'avancer. Continuez à prier pour nous. Je veux m'acquitter d'un devoir, celui de dire merci à notre pasteur Joseph Bondo, à qui il a plu de me choisir pour être l'orateur du jour. Et par ricochet, je dis merci à tout le comité qui travaille avec lui en ce lieu et qui fait du très bon travail. Quand je partais il y a 7 ans, je n'avais pas laissé tout ce que je vois aujourd'hui. Mais en revenant, je vois avec cette Covid, je me disais, mais comment est-ce qu'on va prendre en charge cette grande foule qui vient, ce grand peuple de Dieu qui vient chaque jour à l'église de la Borne. Et quand je reviens aujourd'hui, je peux trouver une structure, des structures qui prennent déjà en charge des personnes. Et j'ai dit merci au Seigneur pour cette prise en charge, et je crois et je prie que le Seigneur nous aide, que notre Église aille de gloire en gloire. Amen. Merci. Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous lisons dans Marc 8. Marc 8, à partir du verset 27e. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée et de Philippe. Il leur fit en chemin cette question. Qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Ils répondirent, Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, me voici devant ton grand peuple pour lui apporter ta pensée, lui apporter ta parole. Je me soumets à ta volonté et je te prie de m'utiliser comme un instrument dans ta main. Que toi seul tu parles à ton peuple et que Seigneur l'homme disparaisse, que toi tu croisses. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, Jésus est à mi-chemin de Césarée. Césarée c'était une ville d'Israël qui a été débaptisée. Autrefois cette ville s'appelait Panéa. Mais quand Philippe, le descendant d'Hérode, l'a amélioré, l'a arrangé, a mis des structures qui n'étaient pas jadis en place, il a débaptisé Césarée. Et Jésus choisit de parler à ses disciples seuls. Il ne parle pas à la foule, il parle seulement à ses disciples. À mi-chemin de Césarée, il leur pose cette question cruciale. Qui dit-on que je suis? Et c'est le thème de ce jour. Qui dit-on que je suis? Cette question peut être formulée autrement. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qui suis-je au dire des hommes? Et les disciples de répondre. Les uns disent. Tu es Jean-Baptiste. En fait, ils rapportent à Jésus ce qu'ils entendent sur la rue. Les uns disent, tu es Jean-Baptiste. Et ça, c'est le camp d'Hérode. Quand vous lisez dans Matthieu 14, 1 à 2, Hérode, pour lui, cet homme qui faisait des miracles, cet homme qui était puissant, ça ne pouvait être que Jean-Baptiste qui était réincarné. Ça ne pouvait être que Jean-Baptiste. Hérode, bien-aimé, victime de cette silhouette, cette ombre de Jean-Baptiste sur sa tête. Cette silhouette qui ne le quittait plus. Hérode ne voulait pas entendre parler d'un homme de Dieu qui soit puissant, puisque dans sa tête, il venait de faire mourir un homme de Dieu qui était puissant. Vous savez comment Jean-Baptiste a été décapité à la danse de la fille d'Hérode, sa mère qui ne l'aimait pas, puisque Jean-Baptiste disait qu'il n'était pas bon que tu maries ta parente. Hérode, la femme a demandé la tête d'Hérode, et Hérode, malgré lui, a cédé à cette demande et a décapité Jean-Baptiste. Et alors, depuis ce temps, la silhouette de Jean-Baptiste, l'ombre de Jean-Baptiste, était sur Hérode. Et quand il entend parler de quelqu'un de puissant qui se lève, il ne pouvait que le comparer à Jean-Baptiste. Bien-aimé. D'autres disaient c'est Élie. Oui, Élie. Puisque la prophétie disait Élie viendra. Et quand il viendra, il ramènera les cœurs des pères aux fils. Et depuis 400 ans, il n'y a eu ni parole de Dieu, ni prophète. C'était un temps dur, un temps d'obscurité en Israël. Et le premier prophète à paraître, c'était Jean-Baptiste. Après 400 ans. Et quand on voit Jean-Baptiste partir, on voit quelqu'un d'autre se lever, on dit ça peut être que c'est lui qui était, dont il était dit qu'il reviendra. Donc c'est Élie. Puisque celui-là aussi était puissant. Élie a fait 7 grands miracles, vous savez. Et Élie était un homme qui se tenait devant Acab, devant le roi, et qui pouvait lui dire ce qu'il avait de la part de l'Éternel. Il ne craignait pas, de la même manière que Christ. Il disait ce qu'il avait devant quiconque était son interlocuteur. Il était facile de comparer Jésus à Élie, bien-aimé, mais il n'en était pas. Il n'en était pas. Il ressort donc de ceci qu'on avait de Jésus des idées vagues qui se dégageaient de sa personne, de sa conduite, de son enseignement. Des idées vagues, des à peu près, des commérages, des choses qui ne sont pas ce qu'il est réellement, bien qu'on l'ait vu. Alors que son rayonnement, bien-aimé, le rayonnement de son message pouvait bien aider les gens à savoir où l'approcher et savoir ce qu'il était. Malheureusement, ils avaient des idées préconçues. Des idées préconçues. Aujourd'hui encore, il y a des idées préconçues de Jésus. Et nous allons le voir par la suite. Il y a eu des gens qui étaient plus proches de Jésus, mais qui y avaient toujours des idées préconçues de Jésus, qui n'avaient pas la véritable révélation de Jésus bien-aimé. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui se font passer pour Jésus. Je voyais encore à la télévision une discussion. Quelqu'un se dit, moi je suis Jésus. Et l'autre dit, toi tu es Jésus? Depuis quand tu sais que tu es Jésus? Il dit, moi, je le sais, puisque quand je vois l'arc-en-ciel, je ne comprends pas. Alors je dis, je suis Jésus. Oh, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Est-ce que tu comprends ce que Jésus, ce que tu dis dans notre temps? Bien-aimé, aujourd'hui, il y a des gens qui le prennent pour un philosophe. Il y en a qui le prennent pour un illuminé. Il y en a qui le prennent pour un penseur. Il y en a qui l'appellent un grand maître, ils ne le connaissent pas.
Il y en a qui appellent Jésus un martyr, oui, un martyr, c'est vrai. Victime de son franc-parler, non seulement un homme qui a un idéal, mais qui a souffert pour son idéal et qui est même mort pour cet idéal. Mais c'était pour mourir qu'il était né, bien-aimé. Personnage historique, oui, il y a 2000 ans, nous l'avons connu. Il y a 2000 ans, nous apprenons de ses nouvelles. Il y a 2000 ans, nous apprenons de son histoire. Il y a l'intellect qui parle. Il y a l'histoire qui parle, on raconte. Et les gens s'arrêtent sur l'intellect. Les gens le connaissent par les racontants, par peut-être la science. Tutelle religieuse. Bien-aimée. Mais la personne de Jésus, on ne la comprend pas jusque-là. On ne la comprend pas. Qui dit-on que je suis? Un grand homme, Seigneur. Mais tu n'es pas seulement un grand homme. L'homme des évangiles, oui. Mais qui suis-je? La découverte, bien-aimé, de qui est véritablement Jésus doit nous tenir à cœur. Même si elle doit être laborieuse, même si elle doit être étudiée avec profondeur, cette découverte doit nous tenir à cœur, car notre vie dépend de qui est Jésus. Notre vie dépend de comment nous connaissons Jésus. Nous voulons avoir les effets de Jésus sur nous. Nous voulons avoir les effets dans notre vie. Nous voulons avoir les effets de Jésus dans le quotidien de notre vie. Mais si nous ne le connaissons pas tel qu'il est, bien aimé, ça sera une histoire. Ça sera du racontard. Ça sera du canne du raton. Ça sera juste une connaissance, mais farfelue. Une connaissance à peu près. Mais ça ne sera pas du vécu. Mais notre vœu et le vœu de Dieu, c'est que ça soit du vécu dans notre vie. Que ça soit du vécu dans notre vie. On retrouve le même scénario dans Jean 4. Quand vous approchez la femme samaritaine, elle considère Jésus comme juif. Elle dit, mais écoute, vous, les juifs, vous n'avez pas de rapport avec nous, les samaritains. Comment est-ce que tu peux me demander à boire? Comment peux-tu me demander à boire? Vous qui êtes juifs, et nous, des Samaritains. Nous pouvons lire ça dans Jacques 4, 25 à 29. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Non, avant cela, nous commençons par le verset 9. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Pour elle, c'est un juif. À la première vue, c'est un juif. Quand il commence à parler, quand il va en profondeur, et que le Seigneur lui demande d'amener son mari, elle dit non, je n'en ai pas. Oui, tu n'en as pas, puisque tu en avais cinq. Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Au verset 19, la femme dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Ah, ça commence à venir. Il est juif, maintenant il devient un prophète. Il continue au verset 25 à 29. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alléluia. Et là-dessus, la femme reconnut le Seigneur comme non juif, non un prophète, simple prophète, mais le Messie promis. Et quand elle le réalise, elle abandonne ses casseroles qui étaient là. Elle court dans la ville. Elle va annoncer à toute la ville qu'elle avait rencontré celui dont les Écritures parlent, le Messie. Le Seigneur s'est révélé à elle à ce moment-là. Mon frère, ma sœur, peut-être que tu en es encore au niveau de considérer Jésus comme un simple juif de la race d'Abraham, un fils de Jacob, selon ce qu'on nous dit, selon ce qu'on te dit. Mais si tu le crois dans ton cœur comme Christ, celui qui devait venir, tu auras la vie sauve. Amen, amen. Nous allons voir aussi un scénario que j'ai toujours regretté. Dans Jean 11, il y a une famille. Quand Jésus passe par Béthanie, il habitait dans cette famille-là. Il vivait avec cette famille. Il mangeait avec cette famille. Il parlait avec eux. Il a communié avec eux. On est allé même trop loin. On l'a appelé l'ami de cette famille. La famille de Marie, Marthe et Lazare. Lazare tombe malade. Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort. Lazare va jusqu'à mourir. Jésus dit, je vais le ressusciter. Et il s'avance. Quand il arrive, Marthe court vers Jésus. Nous sommes dans Jean 11. Marthe court vers Jésus. Si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Si tu eusses été là, c'est du passé simple. Tu eusses été là. Comme tu n'étais pas là, il y a eu la grande conséquence, il est mort. Jésus va dire quelque chose à Marthe. Nous allons lire. Nous commençons par Jean 11, 21, 27. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes, tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Amen, amen. Ça, c'est une affirmation. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Mais écoutez ce que Marthe dit. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection des derniers. À la résurrection des morts au dernier jour. Marthe a une connaissance eschatologique. Marthe a une connaissance qui déplace Jésus de là où il est et le ramène dans les derniers temps, à la résurrection des morts. Il y a deux résurrections, la première ou la deuxième. De quelle résurrection Marthe parle? Mais peut-être comme il était ami de Jésus, c'est la première résurrection à laquelle Marthe fait allusion, puisque en ce temps-là, quand le ciel s'ouvrira et qu'il y aura la voix de l'archange, en un instant, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen, amen. Alors Marthe fait allusion à cette résurrection-là, alors qu'elle est en face de Jésus. Marthe, l'ami de Jésus. Marthe, celle qui mangeait avec Jésus. Marthe qui servait Jésus. Mais Marthe ne pouvait pas imaginer qui était Jésus. Bien-aimé, c'est un drame que je mange avec quelqu'un et que je ne le connaisse pas. C'est un drame. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il sera mort. Et il est en train de parler avec Marthe. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Donc tout ce temps que Jésus parlait avec Marthe et Marie et Lazare, Marthe n'avait jamais cru en Jésus qu'il était la résurrection et la vie. Et quand nous arrivons au verset 39, je vous épargne pour l'économie du temps. Au verset 39 à 41, Jésus dit, ôtez la pierre. Encore une fois, c'est Marthe qui vient, la sœur du mort. Elle lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Connaissance scientifique. Connaissance religieuse. Il ressuscitera au dernier temps. Pour Marthe, Jésus est incapable de le ressusciter à ce moment-là. Et quand il demande d'ôter la pierre, Marthe vient avec la connaissance scientifique. Seigneur, il y a 4 jours qu'il est là, il sent déjà. Selon la science, on peut réanimer jusqu'à 3 jours, mais le 4e jour, impossible. Mais il ne sait pas que devant Jésus, rien n'est impossible. Alléluia. Elle ne comprend pas celui qui est en face de lui. Pour moi, Marthe, rien n'est impossible. Vous savez bien, aimé, quand vous étudiez très bien, quand Jésus a frémi qu'il a pleuré, Jésus n'a pas pleuré pour le fait que Lazare était mort. Jésus est en train de pleurer le manque de foi. Puisque Jésus a déjà confessé qu'il va le ressusciter. Jésus a déjà confessé que cette maladie n'est pas pour la mort. Il a déjà confessé pour tous ceux qui l'entendaient, ce monsieur qui était dans cette cage, dans cette cave. Il ne pouvait que revenir puisque lui était tout puissant pour le ressusciter. Et il a donné ses affirmations. Comment allait-il encore pleurer pour le mort? Mais il pleure puisqu'on ne comprend pas, on ne veut pas croire en lui. Même quand je dis, je suis la résurrection et la mort, tu ne comprends pas. Tu restes dans une connaissance qui est farfelue, qui t'éloigne de la vérité que je suis. Je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Donc, la connaissance de Jésus n'était pas du cœur, elle était au niveau de la tête. Entre la tête et le cœur, 35 cm seulement. Fais descendre ce qui est dans ta tête là, dans le cœur. Et tu verras les effets que le Seigneur va produire en toi. Christ, nous le croyons par le cœur, non par l'intellect. Ce n'est pas par l'intellect. Ce n'est pas une connaissance scientifique. Ce n'est pas une connaissance religieuse. Mais c'est le cœur qui accepte. C'est que Jésus, c'est le cœur qui accepte, c'est que l'œuvre de Golgotha, c'est le cœur qui accepte et qui accepte les conséquences de la foi. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, et le temps n'était pas un bon temps. Alléluia. Le ton n'était pas facile, n'était pas un ton amical, non. C'était comme une réprimande. Marthe, je suis avec toi, je t'ai parlé. Je viens de te dire que je suis la résurrection et la vie. Je viens de te dire que je vais le ressusciter. Je t'ai donné une affirmation. Comment est-ce que tu ne comprends pas que cette affirmation que je te donne est la vérité? Pourquoi tu ne comprends pas ça? Pourquoi tu redoutes ça? Pourquoi tu mets de côté cela? Pourquoi? Pourquoi? Et quand ils ôtèrent la pierre, Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce puisque tu m'entends toujours. Et il donna seulement l'ordre. Il a donné seulement l'ordre. Lazare, sors. Et Lazare est sorti. Alléluia. Lazare est sorti. Lazare est sorti 4 jours après. Le corps était déjà en décomposition. Le cerveau était déjà en décomposition. Ce n'est pas la décomposition de Lazare. Ce n'est pas la décomposition du cerveau qui va arrêter l'action de la puissance de Jésus. Non. Non. Jésus doit être accepté comme celui devant lequel rien n'est impossible. Et c'est par le cœur que nous devons croire cela, avec une ferme assurance. Avec une ferme assurance. Quand il nous parle de comment nous devons nous approcher de Jésus, Hébreux 4:16 dit, approchez-vous donc avec pleine assurance au trône de la grâce, afin que vous obteniez miséricorde et que vous soyez secourus dans quelques besoins. Dans tous les besoins. Dans tous les besoins. Mon frère, ma sœur, Jésus doit être compris, doit être accepté dans le cœur. Et quand nous croyons de cœur, de tout cœur, nous lui donnons la possibilité d'agir dans notre vie. Mais quand nous le connaissons au niveau de la tête simplement, quand nous connaissons au niveau des histoires, au niveau des racontars, mon frère, nous n'allons pas jouir des effets de notre foi en Jésus. Nous n'allons pas jouir. Ce matin, j'ai à cœur que quelqu'un quitte la connaissance scientifique et qu'il descende un peu plus bas dans son cœur et qu'il accepte Christ et qu'il accepte l'œuvre de Christ comme cela a été fait par Dieu afin que nous recevions un salut total, un salut parfait. Amen. Nous voyons quelqu'un qui a crié à Jésus alors que c'était déjà la dernière visite de Jésus à Jéricho. Là, nous parlons de notre frère Bartimée. Bartimée, quand Jésus est entré à Jéricho, il a fait son temps et il passe Jéricho, il arrive au-delà de Jéricho, il est en train de sortir et il va aller à Jérusalem. Et quand il arrive à Jérusalem, il sera arrêté et il va mourir. Donc c'était le dernier passage de Jésus à Jéricho. Et Bartimée, comme aveugle, était là sur le bord de la route et il était en train de mendier avec son manteau. Un désespéré, un sans avenir. Il ne vivait que de l'aumône qu'on lui donnait. Mon frère, ma sœur, Bartimée était désemparé. Mais Bartimée, à lui seulement, nous sommes dans Marc 10. Vous pouvez prendre Marc 10 à partir de 46 à 52. À lui seulement, à l'écoute seulement des bruits. Il y a eu un grand bruit. Des hommes qui parlaient de tous bords, des hommes qui criaient. Bartimée va s'enquérir. Il demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi ça? On lui dit, c'est Jésus qui est en train de passer. C'est qui? C'est Jésus. Bien-aimé, Bartimée, en tant que fils d'Israël, il sait que Jésus n'est pas n'importe quelle personne. Amen, amen. Il sait que Jésus n'est pas n'importe quelle personne. Peut-être qu'a-t-il assimilé ce que Esaïe disait autrefois. Esaïe disait, quand le Seigneur lui-même descendra, qu'il sera au milieu de vous, les yeux des aveugles verront, les boiteux marcheront, les sourds entendront. Amen, amen. Les sourds entendront, les boiteux marcheront. Maintenant, Bartimée entend que c'est Jésus qui passe. Il réalise ce qu'il a appris, non seulement dans la tête, mais ce qu'il a internalisé dans son cœur. Il dit, ça, c'est une occasion que je ne peux pas rater. C'est une occasion pour qu'il y ait pour moi un salut que Dieu me donne. Bartimée va crier de plus belle. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, on lui parle de Jésus-Christ qui passe et lui donne cet attribut de fils de David. Le roi éternel, descendant de David, qui devait rester dans le royaume, ne passerait pas. Le Dieu incarné. David lui-même disait, j'ai vu mon Seigneur. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite. Le Seigneur était en Jésus, réconciliant le monde entier avec lui. Vous voulez voir Jésus, regardez. Vous voulez voir Dieu, regardez seulement Jésus. Quand vous regardez Jésus, vous avez vu Dieu. Vous regardez Jésus, ce dont vous avez besoin auprès de Dieu, vous regardez seulement Jésus. Et quand Bartimée rentre, apprend que c'est Jésus qui passe, il saute au milieu de cette foule, il crie, il n'a pas des yeux, mais il a au moins une bouche. Il a au moins une bouche et il peut crier. Il a au moins une voix et il peut crier. Et quand il crie de plus belle. Il y a même des gens qui lui demandent de ne pas faire ce bruit-là, de s'arrêter. Mais lui, il dit, non, je vais saisir l'occasion. Puisqu'il est dit de cet homme-là, que quand il sera là, moi je verrai. Et comme il passe, il faut que je crie qu'il m'entende. Bien-aimé, quand Jésus apprend cette qualification-là de fils de David. Il dit, ça, c'est quelqu'un qui ne me connaît pas par la tête, c'est quelqu'un qui me connaît par le cœur. Il s'arrête. Le Seigneur s'arrête. Il dit, appelez-le, qu'il vienne. C'est quelqu'un qui est différent de la foule. La foule chante, la foule ne veut pas bénéficier de mon passage. Mais lui, il m'appelle par son nom, le nom qui ouvre les yeux des aveugles. Faites-le venir à moi. Faites-le venir à moi. Et on lui dit, prends courage, il t'appelle. Vous savez ce que Bartimée va faire? Le manteau qui lui servait d'appui, il va le jeter. Jette le manteau. Je n'aurai plus besoin de toi, manteau. Tel que j'avance vers cet homme, je ne serai plus la même personne. Tel que je m'approche de cet homme, je ne resterai pas le même. Tel que je m'approche de cet homme, je vais changer. Je vais changer. Je vais changer. Manteau, je n'ai plus besoin de toi. Reste. Le manteau est resté. Oh, mon frère, il s'approche. Et quand Jésus le voit, il pose une simple question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, que je voie directement et sur place, qu'il te soit fait selon ta foi, pas selon ta connaissance, pas selon ta tête, pas selon l'histoire que tu as entendue de moi, pas selon les racontages de moi, mais selon ta foi. C'est-à-dire, tu as emmagasiné ce que je suis, tu veux vivre ce que je suis, tu veux être au bénéfice de ce que je suis, alors qu'il te soit fait, qu'il te soit fait, et sur place. Il s'est levé et il est parti et il a suivi Jésus. Alléluia. Alléluia. Il a suivi Jésus, bien-aimé. Soyons comme Bartimée. Ne cédons jamais à une connaissance farfelue qui reste seulement dans notre tête. Mais entrons encore en profondeur. Seigneur, je te veux dans mon cœur. Seigneur, je te veux comme mon sauveur et mon Seigneur. Seigneur, je te veux, je veux que l'œuvre de Golgotha soit mon partage, Seigneur. Soit mon partage. Je connais encore une histoire dans Luc 5. On peut peut-être qu'on va terminer par cette histoire-là dans les illustrations. Dans Luc 5, à partir du verset 19, il y a quatre amis qui ont appris que Jésus était dans une salle. Ces quatre amis vont vite se souvenir de leurs frères qui était boiteux, qui ne pouvait pas se lever, qui ne pouvait pas marcher, qui ne pouvait pas arriver là où était Jésus. Et ils vont faire un brancard, ils vont le porter dans le brancard. Ils vont l'emmener, vers Jésus. Mais comment est-ce que nous allons entrer? La porte est barricadée, il y a plein de gens, il n'y a pas d'issue. Les amis montent vers le toit. Et quand ils montent vers le toit, ils vont enlever l'étole. Ils détolent la maison d'autrui. Et par des cordes, des ficelles, ils font descendre leur ami. Ils réalisent seulement qu'il est arrivé au pied de Jésus. Et comme il est arrivé au pied de Jésus, bien aimé, ces amis-là ne restent pas sur le toit. Ils savent qu'ils ne vont pas faire remonter leur ami par le toit. Ils vont descendre et ils vont l'attendre par la porte. Ils vont l'attendre à la porte. Ils vont l'attendre à la porte. La connaissance de Jésus pour ses quatre amis n'est pas une connaissance intellectuelle. Si c'était une connaissance intellectuelle, on pouvait prendre des précautions. Attention, prenez quand même des précautions. Peut-être que ça ne marche pas. On va le remonter encore avec des espoirs. Mais la foi en Christ, la vraie connaissance du Fils de Dieu, venu pour sauver l'humanité, leur a poussé à quitter le toit et à descendre, aller attendre leur ami vers la porte. Au verset 25e de Luc 5, il est dit, et à l'instant, il se leva, cet hypotent, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Je vous ai épargné des détails. La Bible dit, quand Jésus a vu leur foi, il a honoré leur foi et il a guéri leur ami et il s'est levé. Il les a rejoints dehors, non plus par le toit, mais dehors. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. rempli de crainte et de tremblement. Mon frère, ma sœur, ce matin, nous sommes venus auprès de qui? Cette question, cette même question qui a été posée aux disciples, qui dit-on que je suis? Ces réponses qui étaient ramassées dans la foule n'étaient pas satisfaisantes. Et Jésus se tourne vers les disciples. Qui dites-vous que je suis? Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. À dater de cette heure, Pierre n'a plus cédé, n'est plus parti de Jésus. Il s'est attaché à Jésus. Amen, amen. Il s'est attaché à Jésus. Et le fait de s'attacher à Jésus a fait que même après la mort, Pierre pouvait être considéré comme un géant de la foi. Un géant, une colonne dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, cette question nous est posée personnellement, particulièrement, à toi, à ton cœur, à ta connaissance. Jésus se met devant toi. Jésus se présente devant toi. Il est face à face. Considère qu'il est juste en face de toi et en face de ton cœur. Et il te pose cette question. Qui dis-tu que je suis? Qui dis-tu que Jésus est aujourd'hui et maintenant? Un historien? Un homme d'il y a longtemps, il y a 2000 ans, un homme qui aurait levé les hypotents, qui a ouvert les oreilles des aveugles, qui a ouvert les yeux des aveugles, qui a ouvert les oreilles des sourds, qui a délecté les langues des muets, qui a fait parler ceux qui étaient muets. Qui dis-tu que Jésus est pour toi aujourd'hui? La même question t'est posée personnellement ce matin. Et de ta réponse dépendra les effets de Jésus dans ta vie. Amen, amen. De ta réponse personnelle dépendra les effets de Jésus dans ta vie, bien-aimé. Voyons un peu, qu'est-ce qui se passe quand du cœur, nous croyons en Jésus. Premièrement, Jésus sera comme le Sauveur. Le Sauveur. Nous avons l'habitude de dire, il est mon Seigneur et mon Sauveur. Mais la chronologie des choses, il est mon Sauveur et il devient mon Seigneur. Amen, amen. Puisque le départ de tout, c'est que je sois d'abord sauvé. C'est que je sois d'abord à Jésus. C'est que je sois d'abord convaincu du péché, convaincu du jugement. C'est que j'aille d'abord pleurer sur mon propre état présent et sur mon propre état futur. Que je sois conséquent de mon état. La première des choses, c'est celle-là. J'appelle Jésus comme mon sauveur, qu'il me sauve quand je pleure sur mon péché, quand je me repens sincèrement, quand je me décide d'appartenir à Jésus. Jésus devient d'abord mon sauveur. Amen, amen. D'abord mon sauveur. Mon sauveur. Puisque le début du salut, mon frère, ma sœur, ne peut être que la véritable repentance. La véritable repentance. Paul disait à Athènes, à l'Areopage, Dieu, sans tenir compte du temps d'ignorance, demande à tout homme et en tout lieu qu'il se trouve, qu'il ait à se repentir. Qui que tu sois, grand, petit, blanc, noir, Dieu ne tient pas compte des couleurs. Dieu ne tient pas compte de l'état ou de la notoriété qui peut être la tienne. Non. Dieu tient compte de ton cœur et de ce que ton cœur est par rapport à lui. Qui que tu sois, Dieu te demande de te repentir. Tu ne peux pas dire je suis à Christ sans que tu aies l'histoire de ta repentance. Sans que tu saches comment tu t'es repenti. La repentance est la première des choses. Et cette repentance vient quand nous écoutons la parole de Dieu Et quand nous obéissons à cette parole et nous demandons à Jésus de nous sauver, de nous sauver de notre péché, puisque c'est le péché qui nous éloigne de Dieu, de nous sauver aussi de notre état, peut-être de notre maladie ou de notre état secondaire que nous avons, bien aimé, dans sa miséricorde, il vient, il nous sauve. Vous allez voir que la plupart du temps, quand Jésus délivre, peut-être un hypothèse, même celui dont je parlais tout à l'heure, il dit, ton péché t'est pardonné. Lève-toi, prends ton lit et marche. Il commence par d'abord sauver l'âme et il va sauver le corps. Amen. Quand Jésus est notre sauveur, premièrement, je dis, Jésus est notre sauveur. C'est lui qui sauve. Ce n'est plus nous. C'est lui. On ne s'appuie plus sur soi-même. On s'appuie sur celui qui sauve. Et son salut est tout entier, bien-aimé. Son salut est tout entier du fait que sa vie a été tout entièrement donnée à la croix pour nous. Et dès qu'on croit du cœur que Jésus-Christ est le Sauveur, toutes les prétentions de la propre justice tombent. C'est le début d'une réelle humilité qui s'installe en nous. La première des choses, Jésus nous sauve. Et la deuxième chose, il devient notre Seigneur. Il devient notre Maître. Et nous, son esclave. C'est lui qui décide. C'est lui qui choisit. C'est lui qui fait des plans. On ne pense plus que ma volonté se fasse, mais on dit, oh Dieu, depuis que tu m'as sauvé, je suis entre tes saintes mains, je reconnais ta Seigneurie en moi, désormais, non plus ma volonté, mais ta volonté. Ta volonté, Seigneur. Que ta volonté soit faite. On devient comme disposé à obéir à la volonté totale de Jésus. Et on ne fait plus, bien aimé, ce que bon nous semble. Au contraire, c'est lui qui devance tous nos mouvements. C'est lui qui les prend en charge. Tout ce que nous devons faire, c'est lui qui en est le maître. C'est lui qui en est le Seigneur. Et nous devenons son esclave. Et troisièmement, nous allons commencer à faire des choses devant le Seigneur comme notre bien-aimé, comme celui de notre amour, celui que nous aimons tant, et nous allons dépendre de lui en tout temps. On ne fera pas des choses par contrainte, on ne fera pas des choses par puisqu'on nous a poussé de faire, mais ça sera par amour que nous allons commencer à servir notre Dieu. Amen, amen. Mon frère, ma sœur, ce matin, cette question t'est posée. Qui dis-tu que Jésus est pour toi personnellement? Et ta réponse, de ta réponse dépendra la suite. Si tu veux être sauvé, tu veux être délivré, tu veux être changé, tu veux avoir les bonnes solutions à tes questions, bien-aimé, il est important que tu crois fermement en Christ. Tu crois fermement de tout ton cœur, que tu le connaisses par ton cœur, par ton esprit, par ton âme, mais que ça ne soit pas par ton intellect, par ton intelligence. Au contraire, que ça soit par ton cœur que tu confesseras Jésus. Romains 19 dit, si tu crois dans ton cœur et que tu témoignes de ta bouche, tu seras sauvé. Amen. Baissons la tête dans la prière. Qui est Jésus pour toi? Qui dis-tu que Jésus est personnellement? Seigneur, je viens à toi ce matin. Je viens à toi ce matin. Je crois fermement dans mon cœur que nombreux sont ceux qui se sont juste conformer. Nombreux sont ceux qui, juste par l'intellect, viennent vers toi ce matin. Mais tu veux que tu sois accepté de cœur, que tu sois cru dans le cœur, que tu sois fermement cru de tout notre cœur, que tu es le Christ de Dieu, le Messie promis, le Dieu parmi les hommes. Et celui qui, une fois venu parmi les hommes, pouvait dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour proclamer une année de délivrance ». Pour proclamer la délivrance aux captifs, guérir les malades. Oh Seigneur, ce matin, je viens avec mon frère, ma sœur, qui jusque-là tu étais une connaissance, Seigneur, intellectuelle, de la même manière que Marthe. Malgré tout ce temps passé aux pieds de Jésus, malgré tout ce temps passé en compagnie de Jésus, ne pouvait pas réaliser que Jésus était le Je suis, le Je suis, et que à cet instant-là, ce qu'il disait devait se réaliser tel qu'il le disait. Seigneur, s'il te plaît, regarde, toi qui sondes les cœurs, toi qui sondes les reins, ô Dieu. Regarde si nous sommes loin de ta face. Regarde si nous t'avons placé loin de notre cœur. Regarde si nous t'avons connu juste par intellect, par connaissance intellectuelle. Regarde si ta parole en nous, Seigneur, n'est pas cette parole qu'on nous raconte seulement, mais est loin d'être vécue. Regarde et permets, Seigneur, que ce matin, non seulement moi, mais mon frère et ma sœur qui sommes venus devant toi, nous réalisons dans nos cœurs que tu es le Messie promis, le Christ du Dieu vivant, le Fils du Dieu vivant. C'est lui qui, une fois dans le monde, sauverait son peuple du péché. C'est lui qui, une fois dans le monde, manifesterait la gloire de Dieu dans nos vies. C'est lui qui, une fois dans le monde, est accepté et cru, oh, sauverait même notre corps, Seigneur, de la dépression, sauverait même notre corps de tout cet état qui le dérange. Oh, c'est lui qui est la solution de Dieu pour l'homme. La solution de Dieu pour l'homme. Ce matin, Seigneur, mon frère veut avoir sa solution. Et c'est toi qui es sa solution. Manifeste-toi. Mon frère, ma sœur, toi qui penses que ce passage, ce message est pour toi, toi qui penses que ce message te concerne particulièrement, toi qui penses que Christ n'était pas totalement en toi, dans ton cœur, cru en toi, tu peux te lever là où tu es. Nous allons prier avec toi. Nous allons prier avec toi. Merci. Merci pour ceux qui s'élèvent. Toi qui n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est le moment opportun, c'est le moment favorable. Tu peux aussi te lever là où tu te trouves. Le Seigneur veut entrer dans ton cœur et les effets de l'œuvre de Golgotha peuvent devenir ton partage ce matin. Lève-toi. Lève-toi. Pasteur Mouyangui va prier. Merci Seigneur.